Gloire au Seigneur. Bonsoir chers frères et sœurs, on est très heureux de vous accueillir à Toulouse-Ouest pour cette occasion, cette soirée inter-église avec plusieurs pasteurs et épouses et de plusieurs communautés. Donc il y a Colomiers, Horizon Colomiers qui est bien représenté, donc soyez les bienvenus. Je crois qu'il y a l'île Jourdain aussi, j'ai vu le pasteur, son épouse. Donc voilà, soyez les bienvenus aussi. Il y a la rencontre aussi. Donc, soyez les bienvenus. Je ne sais pas s'il y a une autre église encore en dehors de ces trois assemblées qui, ou un représentant d'une autre église, je ne sais pas. Ah, Sainte-Agne, voilà, un représentant de Sainte-Agne, soit le bienvenu. Très bien. Eh bien, écoutez, on est aussi heureux d'accueillir le pasteur Patrick Boudéen, qui nous vient de la région parisienne, de l'église MLK, qui est depuis samedi pour une série de réunions dans différentes églises. Et ce soir, on est heureux de l'accueillir et de lui laisser la place pour qu'il nous apporte la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse et qu'il nous parle à travers son serviteur.
Merci. Bonsoir, vous allez bien? Ok, vous avez vos Bibles? Ça marche? Si c'est comme ça, ça marche aussi. Normalement, c'est mieux en papier, mais bon, on s'y met quand même. Je suis touché, j'avais un thème et je voudrais le partager un peu avec vous. C'est l'importance de se mettre d'accord, qui est pas sûrement, je pense, la moindre des choses qu'on peut trouver dans la Bible et puis en termes spirituels. Et je pense que c'est vraiment des choses sur lesquelles on minimise son impact à titre personnel, mais aussi à titre familial. Et aussi à titre collectif, ça soit la communauté ou ailleurs, parce que souvent on est là et puis on pense qu'on est d'accord. Et on se réunit, on a mis des chaises, okay, tout le monde s'assoit les uns à côté des autres, on est rassemblés. Est-ce qu'on est vraiment réunis? C'est pas sûr. D'accord? Alors je mets personne mal à l'aise, mais ça va commencer par, vous voyez, il n'y a eu aucune concertation entre la louange et moi, par exemple. Pourtant, si on veut percer, je comprends... J'arrive, c'est juste un constat. On est réunis, on en fait des invitations. Est-ce qu'il y a un but commun? Moi, j'ai un thème qui m'a été proposé, on a discuté. Est-ce que ce thème a été partagé? C'est pas sûr. Et quand on arrive, en fait, on ne s'est pas mis d'accord. Est-ce qu'on a vécu un bon moment de louange? Vous n'avez pas l'air sûr, vous étiez là ou... Non, c'est sûr, vous étiez là, vraiment. Est-ce que vous avez passé un moment de louange ou pas? Est-ce que vraiment... Amen, ouais. Les chants étaient chouettes, je ne sais pas combien de temps vous vous êtes mis pour vous mettre d'accord et répéter ensemble. Mais vous voyez, quand on va gratter, comme ça, on peut décomposer un certain nombre de choses sur lesquelles il y a, à un moment donné, son importance. Des gens qui se connaissent, des gens qui répètent ensemble, des gens qui, à un moment donné, ont l'habitude d'être ensemble, ont des références, ont des réflexes, ont des comportements qui sont très différents d'endroits où vous ne connaissez pas les uns et les autres. C'est vrai ou pas? Bien sûr. Quand vous connaissez vraiment bien, vous avez des regards qui, des fois, sont des conversations complètes. Et puis, d'un seul coup, vous avez un fou rire qui part, et puis on dit « Surtout, me regarde pas, surtout, tu me regardes pas !» Puis le regard est là, puis bing, les trucs sont faits. Pourquoi? Parce qu'on se connaît. Et quand on se connaît bien, on sait, à un moment donné, ce que pense l'autre, à quel moment, dans quel état d'esprit il est. Il suffit de bien se connaître pour ça. Vous regardez la fenêtre, l'œil, le regard de l'âme. Et quand on a l'habitude, à un moment donné, quand on a un peu d'habitude, on sait, en regardant les uns les autres, comment tu vas. Ouais, ça va bien. Et puis la personne en face vous regarde et dit, non, tu peux le raconter aux autres, mais c'est à moi que tu parles, comment tu vas? Et c'est là où, à un moment donné, il y a, à mon sens, vraiment des choses sur lesquelles il est nécessaire, dans la vie, de se mettre d'accord. Deux marchent-ils ensemble sans s'être accordés? Si on n'a pas un but commun, si on n'a pas, à un moment donné, si on n'a pas des choses qui sont là dans nos vies, on ne marche pas ensemble. C'est pas vrai. On peut faire un bout de route ensemble, on peut partager certains éléments. Comment c'était la soirée? Super! Pourquoi? Moi, j'ai trop aimé la louange. Moi, j'ai trop aimé le polo du pasteur. En plus, ça, assorti avec les baskets, vous avez vu, c'est quand même la classe. Et puis, vous pouvez avoir plein d'éléments comme ça. Pourquoi? Je suis trop content parce que Luc était là ce soir. Amen. Je suis trop content parce que toi, tu étais là. C'était super. J'ai trop aimé la parole. J'ai trop aimé. Oui, mais est-ce que vraiment on a aimé les mêmes choses au même moment, etc.? Et on n'est pas tous forcément d'accord. Est-ce que c'était bien? Oui, c'était bien. Mais est-ce qu'on a vraiment déclenché quelque chose? Est-ce qu'on a vraiment réussi à toucher quelque chose? Pas forcément. Et pourtant, il faut vraiment, les amis... Et je pense que c'est nécessaire, surtout en Église, surtout quand on est en plus ça dans la foi, de bien comprendre les choses. Matthieu 18, si vous avez vos Bibles. Matthieu 18, versets 19 et 20. Je vous déclare que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux leur donnera. Imaginez un peu l'impact de ce... Écoutez, quand je lis ça, je me dis, Seigneur, ça vaut quand même drôlement la peine d'être d'accord. Hein. Pas 50, hein. On n'a pas besoin d'être 50 ou 200. Si seulement deux s'accordent, merci Seigneur d'avoir descendu le niveau à deux. Des fois, c'est déjà compliqué de se mettre d'accord à deux. Alors Seigneur, et lui, si deux s'accordent entre vous sur la terre pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux leur donnera. Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le verset, il ne dit pas quand on est deux ou trois, Dieu est là. Hein. Ce n'est pas ça que ce verset il veut dire. Parce que j'entends souvent dire Alléluia, où deux ou trois sont réunis, Jésus est au milieu, donc on est plus, donc Dieu est là. Mais non, pas du tout. Vous êtes tout seul dans votre chambre, Dieu est là. C'est vrai ou pas? Bien sûr, ferme ta porte, rentre dans ta chambre, tu es là dans la prière, ton Père, il est déjà là. Ce verset, il parle de collégialité, il parle de discipline, il parle de se mettre d'accord. Ce n'est pas parce qu'on est trois les uns à côté des autres qu'on est d'accord. Et l'enjeu, c'est quand deux ou trois vraiment sont rassemblés, ils ont une mentalité, il y a une vision commune, il y a une compréhension qui est commune, il y a quelque chose qui plie dans notre cœur. Dans la prière, ça veut dire qu'on doit être aligné avec Dieu. La prière, c'est, vous savez, c'est cet exercice où on parle à Dieu. Ce n'est pas des formulations, ce n'est pas des récitations, ce n'est pas des postures. Est-ce qu'il vaut mieux prier debout ou à genoux? Parce qu'à genoux, c'est quand même plus puissant, les amis. Ah. Vous m'excuserez, mais prier à genoux, c'est quand même plus puissant que debout. Parce que tout genou fléchira devant Dieu. Donc quand même, les amis, excusez-moi, j'espère que vous priez à genoux, parce qu'à genoux, c'est quand même plus puissant que debout. Je fais exprès, c'est pas vrai, ça. Il y a des gens qui me disent qu'il vaut mieux prier la nuit que le jour. J'ai dit, moi, la nuit, je dors. Et le Seigneur a dit, pendant la nuit, il en donne autant à ses serviteurs. Amen, Seigneur. C'est-à-dire, quand je dors, Dieu m'en donne autant que les autres. Amen, ça fait du bien quand même, ouais. Et tant pis pour ceux qui sont insomniaques, et puis ils vous en donnent autant, tant mieux. La prière, c'est pas une formulation, la prière, c'est une conversation, c'est je parle avec Dieu. J'espère que vous parlez beaucoup avec Dieu. Parce que je pense qu'on a vraiment besoin de beaucoup parler avec Dieu. Et parler, c'est pas un monologue, c'est pas juste, à un moment donné, des récitations, c'est pas ça, c'est une conversation. C'est une conversation, c'est donner du ton, c'est un échange, c'est un partage. Des fois, c'est solennel, des fois, c'est grave, des fois, c'est joyeux. Est-ce que vous savez que Dieu a de l'humour? Vous savez que Dieu a de l'humour? Découvrez ça vaut le coup quand même. Parce que la joie du Seigneur, c'est quand même notre force. Hein. Moi, je crois que Dieu est vraiment quelqu'un qui sait nous réjouir. Pardon, mais quand on voit certains, on en doute un peu. Mais la réalité, c'est que c'est vrai. La joie, ça fait partie du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, c'est le deuxième en plus. Hein. Un JPPBBFDT. Hein. Amour, joie, paix, patience, bonté, bénédité, fidélité, douceur, tempérance. C'est pour les apprendre par cœur, ça. Parce que souvent, il en manque toujours un au bout. Donc AJPPBBFDT. Voilà. Vous les répétez avec moi ou pas? Repeat after me. Et la joie fait partie de ce que Dieu veut nous donner. Amen. Je voudrais proclamer la joie sur nos vies, les amis. Vous êtes d'accord ou pas? Attention, si vous dites Amen, vous êtes d'accord avec moi. Donc il y a pour certains, des choses doivent changer. Ce n'est pas qu'une proclamation, c'est aussi une prière. Vous avez vu l'importance de se mettre d'accord. Moi, je fais exprès dans mes petites phrases d'arriver à avoir votre accord. Et pour se mettre d'accord, il y a un échange, il y a des paroles, il y a des choses qu'on met sur la table. Vous savez que ce texte-là, il dit quand même, il y a quand même Pierre qui dira « Oui, mais combien de fois il faudra que je pardonne à mon frère ?» Parce qu'à un moment donné, pour se mettre d'accord, il faut aussi être capable de se mettre d'accord. Et quelquefois, dans nos vies personnelles, on n'a pas toujours eu que des choses simples. Est-ce qu'il y a des gens mariés dans la salle? Les gens mariés levés. Vous savez l'importance du pardon. Alléluia, Seigneur. Vous êtes parents, l'importance du parent. Vous êtes des enfants, on est tous dans une famille. Okay, est-ce qu'il y a des gens d'une famille ? Ben oui, on est tous dans une famille. Même si je suis célibataire aujourd'hui, Dieu m'a mis dans une famille. Peut-être que vous êtes un vrai orphelin et vous connaissez ni votre père, ni votre mère, ni peut-être les oncles, les frères, les sœurs, etc. Mais votre position d'orphelin ne vous soustrait pas que malgré tout, vous êtes quand même dans une famille. Il y a quand même quelque chose spirituellement qui est là. Et dans cette famille, et quel que soit, même dans votre posture d'orphelin, vous pouvez vous-même avoir cette famille. Et on est tous dans une famille. Et je sais que dans la famille, des fois, il faut se dire pardon. Hein. Des fois, c'est même plus douloureux dans la famille qu'ailleurs. Bon, je vais pas partir là-dessus, je ne vais pas vous casser le moral. On est vraiment sur cette dimension de l'accord. Si deux s'accordent, je vous donnerai. En mon nom, si vous faites dans la prière, en mon nom, j'exaucerai, dit le Seigneur. Je pense que nous, il y a une dimension extrêmement importante pour nous d'arriver à un accord et à se mettre d'accord. Vous êtes dans les églises ici, et c'est important, je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait vraiment une invitation et qu'on est chez les uns et les autres en termes d'église. Et c'est rare, c'est pas partout pareil. On peut être des fois deux églises, je vous en cite, on est dans la Normandie, dans la même ville, il y a deux églises dans la même rue, ils se parlent pas, parce que c'est issu d'une division et on veut pas se parler. Donc il y a deux communautés qui se croisent mais qui se parlent pas. C'est quand même un peu drôle que quand même dans la même fédération, on arrive à avoir deux églises de la même fédération qui ne se parlent pas. Et tout le monde a des excuses hein, pour dire « j'y vais pas », etc. Puis au bout d'un moment, vous savez, c'est un peu... Vous connaissez Obélix, Astérix et Obélix. Des fois, vous avez des drôles de prophéties chez Astérix et Obélix, je trouve ça assez drôle. Parce que quand vous avez Astérix et Obélix chez les Corses, au bout d'un moment, on se dit « au fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ? Tu ne sais pas, le papa, l'oncle du tonton... » C'est le marronnier, il est tombé sur l'âne du cousin, qui lui a dit, et l'autre, il lui a dit, mais de quoi tu parles ? Mais tu sais pas, mais je vais te... Mais de quoi tu parles ? Vous voulez que je vous dise vraiment les choses ? J'ai dans ma famille plusieurs personnes qui sont pas à Christ. Il y a autour de moi des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont dans ma vie, qui sont pas à Christ. Il y a dans l'environnement de l'église et de la famille dans lequel je suis, quasiment 695 000 personnes qui sont pas à Christ. Vous voulez que je vous dise ce que je pense de l'affaire du tonton avec son au troisième degré du machin ? Vous voulez vraiment que je vous dise ce que j'en pense ? Aujourd'hui, je vous dis franchement, c'est des faux problèmes. La réalité, c'est le salut de mes enfants. La réalité des vrais domaines dans lesquels on devrait se mettre d'accord, c'est non seulement le salut de mes enfants, mais des copains de mes enfants que je connais depuis 10 ans, 15 ans, qui sont là, qui grandissent en venant chez moi. Il y a plusieurs jeunes qui ont leur brosse à dents chez moi. Quand ils débarquent, ils viennent sans rien parce qu'ils piquent les slips de mon fils, ils piquent mes t-shirts, ils ont leur brosse à dents dans ma salle de bain. Et quand ils viennent, ils ont besoin de rien. Ils disent, tonton, je dors chez toi ce soir. Ta brosse à dents, elle est là. T'as ton dentifrice, t'as tout, tu repartiras. Mon souci, c'est leur salut aujourd'hui. Bien plus que de savoir si à côté, à droite et gauche, il y a des trucs qui vont pas. Il y a des projets d'éménagement, j'entends qu'il y a des projets d'implantation, il y a l'île Jourdain, il y a des agrandissements, il y a des familles, il y a des trucs. Excusez-moi les amis, à un moment donné, le vrai combat, il est là ou pas ? Et si on se mettait d'accord pour attaquer les vrais sujets ? Amen ou pas ? Les vrais sujets collectifs, mais peut-être les vrais sujets personnels, parce qu'il y en a aussi des sujets persos. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une des conversations qui, je crois, m'a le plus étonné. Alors, j'ai été emmené en maison d'arrêt pendant des années. Mais malgré tout, j'ai toujours dans mon environnement, et à cause de ma position, des confidences de gens qui me parlent soit de leur souffrance, soit des fois de ce qu'eux-mêmes ont vécu parce qu'ils ont été blessés par la vie, soit parce qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils ont produit des choses et jamais ils auraient imaginé qu'ils auraient pu en arriver là. Et quand ils me racontent des fois leurs histoires, je dis « Wow, Seigneur, il faut vraiment toute ta grâce. » Honnêtement, il y a des sujets de vie, je vous dis franchement, je n'échange pas ma vie avec les autres. Hein. J'ai déjà bien assez à faire avec mes histoires. Mais certaines confidences qu'on me fait, je dis « Seigneur, il faut vraiment que ta grâce soit là. » Et quelqu'un qui me fait une confidence, il compte sur ma parole. Pour que sa confidence et ma prière, on devienne deux pour demander ensemble la même chose, pour que quelque chose se passe dans leur vie. Vous êtes OK ou pas? Je vous en supplie, les amis, soyez extrêmement, ayez énormément de tact. Je vous en supplie, ayez le plus grand soin de ces confidences qu'on peut vous faire à certains moments, non pas pour donner votre avis ou de dire si t'en es arrivé là, c'est que t'as dû quand même drôlement vivre un truc difficile. Je vous en donne un qui n'est pas d'ici, comme ça vous êtes tranquille, c'est une mamie qui me parle et je la baptise et je suis tellement heureux, c'était une mamie qui était tellement géniale, 73 ou 74 ans et on parle de la vie, etc. C'est 20 trucs de dingue. Et cette mamie, au soir de sa vie, elle est là et elle me raconte ces trucs. On la baptise, on est tellement heureux et on est devant l'église, on est juste devant la porte. Et elle m'attrape le bras et elle me dit « Patrick, pour la première fois de ma vie, je découvre ce que c'est que d'être heureuse. » Et vraiment, elle le dit, mais avec une émotion. Vous savez, moi, je suis là, je suis un gars, mais je vous avoue, il y avait une telle présence, il y avait un truc, je sens que la boule se... Vous sentez le truc qui dépasse. Et elle vous dit, et je connais sa vie, elle m'a fait des confidences sur son enfance, sur sa vie, sur les tensions, sur je ne sais pas combien de choses qui sont là. Et j'ai tellement d'affection pour cette mamie, quand elle me raconte ça, je suis bouleversé. Je me dis, oh Seigneur, merci d'être ce Dieu qui par ton amour, nous arrive à guérir les blessures les plus profondes. Et Seigneur, par ta grâce, tu es capable de lui donner dans ce qu'elle vit aujourd'hui des choses de dingue. Et à un moment donné, il y a une confidence qu'elle ne m'avait jamais faite avant, c'est le fait qu'elle me dise, tu sais Patrick, je connais mes enfants, ouais. Mais il en manque un. Alors moi, je la regarde, je dis, bah, de quoi elle me parle? Je dis, ouais, en fait, je connais mes trois. Mais dans la vie, la réalité, c'est qu'il devrait y en avoir quatre. Le quatrième, je n'ai pas permis qu'il soit là. Est-ce que tu crois que Dieu peut encore me pardonner? Je vous avoue franchement que je ne m'attendais pas ça de ce moment-là. Et je lui dis, tu vois l'amour que t'as, tu sens cette présence, cette joie que Dieu a aujourd'hui, ça, ta joie que tu as là. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te pardonner? Et je lui dis, si tu vis cette joie aujourd'hui, c'est que Dieu est capable, sinon tu ne serais pas dans cette joie à ce moment-là tout de suite. Et je vous dis franchement, elle a porté cette peine, je pense, pendant au moins 50 ans, sans en parler, sans un mot, sans parler ni à vos frères et sœurs, ni à ses enfants, ni à son mari, ni à personne. Et je me dis, pendant 50 ans, elle a porté un tabou d'un secret qui avait ravagé sa vie. Et si elle avait trouvé, bien avant, une confidence, peut-être avec quelque chose... Vous savez, on sait que dans ces domaines-là, alors comprenez, on est dans l'éthique, hein, on est dans quelque chose où mon avis compte pas, que je pense compte pas, la compréhension des situations compte pas. Le seul capable de peser les cœurs et de juger les vies, c'est Christ. Et au moment où la confidence se passe, ce terrain est un terrain saint, enlève tes chaussures, donne pas ton avis. Et quand je discute avec elle, vous savez que c'était mon meilleur élément pour s'occuper des ados dans l'église. Après cette confidence, on a discuté, on a prié, on a demandé à Dieu sa grâce. Je dis, tu porteras, un jour il y aura les explications, tu sauras comment les choses ont été portées devant Dieu. Mais aujourd'hui, pendant tout ce que tu penses, je t'en supplie, vis ta vie avec toute la joie et toute la force que Dieu peut te donner. Déploie ton zèle, parce que tu ne sais pas, un jour tu auras la conversation avec ton père. Mais pour l'instant, je t'en supplie, donne de la qualité. Je lui dis, qu'est-ce que je fais? Je ne sers à rien, je suis une mamie. Je lui dis, je t'en supplie, occupe-toi des ados. Et quand elle était à l'église, tous les ados, au bout d'un moment, tournaient autour d'elle. Elle était tellement mignonne. La puissance de la tarte aux pommes. Ah, Jésus, merci pour tous ces trucs. Elle avait du talent, elle parlait, les confidences. Vous savez, quand vous-même, vous savez que vous avez été pardonné. Vous savez pardonner aux autres. Et quand elle s'occupait des ados, c'était vraiment, je dis, comment ça va les ados? Au bout d'un moment, on dit, oh les ados, nickel Pat. Je prie pour eux, je suis avec eux, je prie pour eux, je prie pour les familles. Et des fois, au bout d'un moment, elle avait compris qu'il se passait des choses. Donc, elle dit, tu sais, non seulement je prie pour eux, mais je prie pour les parents, je prie pour tout ce qui se passe dans les familles, Patrick. Et c'était, elle en a emmené au salut. Amen ou pas? Oui, les amis. Il peut se passer quelque chose dans ce lieu ce soir. Vous êtes OK ou pas? Dans ce lieu-là, dit le Seigneur, dit, dans ce lieu-là, je te bénirai. Et souvent, on imagine, c'est quoi le lieu-là? J'aimerais qu'on me dise, c'est une adresse, c'est un point. Est-ce que c'est l'estrade? Vous savez, quand même, c'est là où les pasteurs, normalement, se trouvent et on a le micro. L'onction est ici, quand même. Non, le lieu-là, c'est quand Dieu trouve des hommes et des femmes, des fils et des filles du royaume, avec la mentalité du royaume, avec le cœur du royaume, avec une prière orientée par la volonté du Père, conduite par le Saint-Esprit, et que ces hommes et ces femmes qui, à un moment donné, se mettent d'accord pour demander une chose en son nom, Seigneur, il dit là, je te bénirai, parce que quand Dieu trouve la foi, il y a une dimension de, à cause de ta foi, il y a une dimension de libération, de puissance et de grâce, parce que quand les gens, il y a une dimension d'accueil et de pardon et de grâce, Seigneur, il dit à cause de ça, il n'y a pas qu'un lieu, il y a ça... Cette affection, cet amour fraternel, ce pardon qui est passé, la réconciliation, plus le Saint-Esprit, plus ça, et dans ce lieu-là, tout est possible parce que le Seigneur, il est là, les amis. Et là, si deux s'accordent, je vous assure, les amis, il ne faut pas besoin d'en avoir 50. Si là, tu es d'accord, Dieu est capable de bouleverser les choses. Vous avez une grâce, je ne sais pas si c'est une des premières, mais je ne peux que vous dire, les amis. La prière d'une maman change les vies. La prière d'un papa change les vies. La prière des deux parents. Si 1 000, 2 000, 10 000, oh là là, ça commence à être bon là. Et puis quand deux s'accordent dans une église, mais si deux pasteurs, si toute une pastorale, si plusieurs églises se mettent d'accord. Vous avez vu combien des fois on... Est-ce qu'il y a des gens qui ont hésité à venir ce soir? Soyez vrais. Ah, moi j'étais invité, non je pouvais pas. Non, mais oui, des fois, on n'a pas envie, on est d'accord. Oui, mais quand tu vis des trucs de dingue, c'est un des versets qui me grattait au début. Moi, j'ai de la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et des fois, je vivais le truc, le moment de prière ne m'inspire pas, le moment de la louange ne m'inspire pas, la prédication... Puis je vois les gens autour de moi, ils lèvent les mains, alléluia, puis on sent la détermination, la grâce. Et je dis, mais soit ils sont dingues, soit ils ont trouvé des choses que je ne vis pas. Aujourd'hui, on fait des nuits de prière. Amelka, vous avez des nuits de prière. C'est 22h, 6h du matin. Vous savez quoi? Je suis le spécialiste pour virer tout le monde à 6h du matin. Parce qu'on commence à 1000. On finit à 1200. Je n'ai jamais compris comment c'est possible dans la nuit. On se multiplie et le matin, il faut les pousser dehors pour dire rentrez chez vous parce que dans 2 heures, dans 1h30, il faut qu'on nettoie le bâtiment. Dans 1h30, on recommence les réunions de demain. Rentrez chez vous, on a besoin de nettoyer le bâtiment. Ils non seulement ils partent pas, mais ils sont là à la première célébration pour servir. Ils n'ont pas dormi de la nuit. Merci, amen. On est au moins 2 à être d'accord, c'est bon. Mais vous savez quoi, au bout d'un moment, on découvre ça, on dit « j'ai pas envie d'être heureux », parce que quand vous avez compris la puissance de la prière, et quand vous avez compris la puissance de l'accord dans la prière, les vies sont transformées, les situations sont changées, des choses qui ont dit « Seigneur, si je pouvais obtenir de toi la grâce que peut-être, si t'étais vraiment là, il se passe... » Non, il remonte, il se passe ça. On est d'accord au nom de Jésus, on est d'accord. Et la prière collective, c'est une puissance, les amis. Amen ou pas? 1 Samuel 17. Vous connaissez, je pense que vous allez tout de suite comprendre, c'est avec Moïse, Hur, Aaron et Josué. Et il y a un combat, hein, terrible combat, qui est en train de se mener avec Amalek, qui vient que pour dérober et détruire. On est dans cette vallée de la tentation et de la désolation où Amalek est en train d'arriver avec ses manigances. Et le nombre de fois où nous-mêmes, contre nous, il y a des manigances contre l'évangile. Je vais essayer de changer d'écran. Alors. C'est pas le bon. Si vous avez oui, je vous donne juste Hébreux 4.16 aussi avant de lire l'autre. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. C'est vraiment le mot qui dit trouver le moyen de salut dans tous nos besoins. Amen ou pas? Dans tous nos besoins. Le mot qui est derrière, le, le mot qui est derrière trône, c'est le mot qui sait. C'est un mot qui est étonnant, en fait, c'est tronos, thronos en grec, mais qui sait. Et approchez-vous avec assurance du trône. Je vais vous choquer, hein. Je comprends pas comment dans la vie spirituelle, des gens, je préfère le strapontin à côté des toilettes au lieu de voyager en première. J'arrive pas à comprendre ça. Parce que vous savez qu'on est quand même des citoyens du ciel, hein. Amen ou pas ? Des fils de roi, non ? Des fils et des filles de roi. On est quand même des héritiers du trône. Enfin, quand même, c'est quand même pas rien. J'arrive pas à comprendre pourquoi dans notre vie spirituelle, des fois, on se contente. Non seulement de peu, mais des fois de très peu, comme si c'était bon. Alors que Dieu t'a dit, tu sais, à ton niveau, à toi, c'est la première classe. Donc soit vous n'avez jamais goûté la première, je comprends pourquoi vous ne savez pas ce que c'est, mais franchement, quand on a goûté une fois la première place, on n'a pas du tout envie d'être ni dans la deuxième, surtout pas dans la troisième. Le qui sait, c'est le trône. C'est-à-dire que, représentez-vous un trône, si ça, vous pensez que c'est un trône. Si vous vous approchez de la personne qui est assise dessus, vous savez que ce que vous allez demander sera à la hauteur de votre représentation. C'est une chaise en plastique qui, des fois, fait vraiment mal aux fesses. Vous avez remarqué que ça vous coupe moi, ça me coupe sous les cuisses, moi. Bon, bref. Mais quand vous avez un trône, regardez, vous allez à Versailles, allez à Chambord, allez à Chenonceau, vous avez des trônes. Et là, je vous assure, quand vous voyez le trône, vous savez que la personne qui est dessus, c'est elle qui pilote. Hein. C'est elle qui a le dernier mot, c'est elle qui paye, c'est elle qui va vous dire ce qui va se passer. Quand vous approchez du trône de la grâce, et que dans votre tête, il y a vraiment cette conscience que celui auprès je m'appelle, c'est celui qui est capable de le faire et que lui, il a la puissance de ce qu'il dit, ce que vous demandez à celui-là, vous savez que ça va s'accomplir. Amen ou pas ? Je vous garantis, si vous voyez mon fils et ma fille venir me voir, dire « Papa ! J'ai besoin d'un truc. » Ils n'ont pas de doute que ce qu'ils me demandent, ça va se faire. Hein. Merci Seigneur, pourvu que ça dure encore longtemps. Mais imaginez que nous, spirituellement, on comprenne que celui à qui on s'adresse, demandez-lui, il est capable de le faire. Et nous, dans notre foi, je suis sûr que ce soir, des fois, on est loin de cette compréhension-là. Mais imaginez si deux personnes s'accordent pour comprendre la même chose avec cette puissance et cette grâce, ce que Dieu est capable de faire. Amen, les amis. En Samuel 17, on est avec ce texte avec Moïse, Hur et Aaron. Tant que Moïse a les mains levées, Josué qui est dans la vallée combat, il a la victoire. Vous savez, dans l'église, on n'est jamais tout seul. Il y a des parents, oui, il y en a qui sont plusieurs, oui. Vous avez des sujets de prière ? Quand je parle depuis tout à l'heure comme ça, est-ce que vous avez des sujets de prière ? Oui, non, peut-être un peu, pas trop. Oui, qui a des sujets de prière ? Ok, des vrais sujets de prière, je ne parle pas des trucs... Ouais. Pour que Josué ait la victoire, il faut un Moïse qui prie. Tant que Moïse prie avec les mains levées, Josué, il a bien la victoire dans la vallée. Donc c'est pas qu'une question de l'un ou de l'autre, souvent ta victoire c'est une combinaison de toi et de moi. Encore une fois, d'accord. Vous savez, quand Moïse il est fatigué, il commence à baisser les bras, puis d'un coup il y a eu Aaron qui a dit « Ouais, t'inquiète pas, on est là ». Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui disent « T'inquiète pas, je suis avec toi, on est bon ou pas ?» Amen. Encore une fois, c'est l'accord. Je vais m'arrêter là parce que je voudrais donner du temps pour qu'on puisse vraiment prier les uns et les autres. Si vous avez des papiers ou des choses comme ça, je veux que vous mettiez. On pourrait faire vraiment des vrais sujets de prière. Vous êtes OK ou pas ? Est-ce qu'il y a des gens qui combattent pour des âmes ? Pour dire, Seigneur, moi, il y a des gens, cette année, je veux voir vraiment des choses changer dans leur vie, Seigneur. Amen ou pas ? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. On va dire, il y a 5 salles de prière. OK ? On va se diviser. Vous allez bouger. Ça va vous faire du bien. On va bouger un petit peu. Il y a des sujets vraiment d'église. Et je vous propose que, pour tous les sujets d'église, moi, l'île Jourdain, je veux une implantation qui cartonne. Et que ça ne prenne pas 10 ans, parce qu'au bout d'un moment, Seigneur est capable de sauver les gens d'une manière tellement radicale. À un moment donné, on dit, Seigneur, zut, combien de temps ? Enfin, il y a 9000 personnes. Imaginez qu'on en gagne 45 par an. Faut 400, faut combien ? Faut 200 ans pour gagner la ville. Bah, je ne serai plus là. Hein. Donc à un moment donné, Seigneur, zut, à un moment donné, on veut voir ta puissance et ton impact. Il y a une église terrible là-bas, il y a une église qui est gigantesque. Enfin, franchement, au bout d'un moment, Seigneur, ce qu'on veut, c'est annoncer l'évangile, voir les âmes. Il y a un changement. Zut, Seigneur, on veut gagner combien de personnes ? Il y a toutes les églises là de Toulouse pour dire, Seigneur, on aimerait bien en rajouter une quinzaine ou une vingtaine en disant, Seigneur, sauve 2, 3, 4. Qu'en France, il y ait le meilleur taux d'implantation d'églises. Vous êtes OK ou pas ? Mais ayez un petit peu, comment je peux dire ça ? Il paraît que c'est chauvin, non ? Ayez un peu cet orgueil de dire, merci, tu vas sauver la France, mais quand même, à Toulouse, on sera au-dessus des autres. Non, mais des fois, il faut s'exciter un peu. La Bible dit qu'on a le droit de s'exciter à l'amour. Hein. Donc, on va aimer les âmes, dit Seigneur. Vous savez qu'à La Rochelle, prenez un peu, Vallée de la Loire, ville de Saumur, il y avait plus de 20 églises. C'est là où, à un moment donné, il y avait le plus d'éditeurs. Vous savez, des gens qui ont imprimé la Bible. C'était dans celui-là, il y avait des éditeurs qui éditaient pour l'Europe entière. Et il y a une place où on met des clés, parce que on appelle ça vraiment l'endroit, il y avait toute une symbolique avec ça. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul éditeur à Saumur. Tu sais, quand des fois l'histoire fait c'est spirituel, tous ces trucs-là. Mais Seigneur, un pour 10 000, Seigneur, le meilleur taux d'impact spirituel de France, ça commence par Toulouse. Vous êtes OK ou pas ? Mais si vous y croyez. Mais des fois, on dit, mais ouais, mais t'exagères. Mais si t'y crois. Vous y croyez ou pas ? Bon, la salle de prière pour les... Là, on fait les parents avec les enfants, la salle de prière pour l'église. Je sais pas combien faire. Il y a d'autres sujets, des vrais sujets. Des guérisons, des délivrances. Ouais, médicales. Mais si c'est pas pour vous, priez pour les autres. Hein. Si vous aimez la guérison, soyez simple. Hein. Je vous en donne un dernier. C'est vraiment... Nathalie m'appelle le dimanche matin, elle m'a un message, elle me dit, Pat, qu'est-ce que t'as encore fait ? Alors j'ai dit, ça y est, qu'est-ce qui m'arrive encore ? Elle me dit, t'as rendu témoignage à quelqu'un ? On a un témoignage. Ah bon ? Donc on était à Holy Spirit, on était à la soirée tous les samedis soirs, vraiment prière Saint-Esprit. Et j'ai une jeune femme, je me souviens vraiment, qui vient me voir et qui me parle de ses difficultés. Et vraiment, elle dit, t'as prié pour elle ? Imaginez le truc, elle dit, alors il y a deux sujets que j'évite toujours, c'est la vie sentimentale, parce que ça fait trop de mal, et donc faut pas dire de bêtises. Puis le deuxième sujet qui fait super mal, c'est le sujet en fait de l'enfantement. C'est des deux sujets qui sont tellement souffrants que souvent j'essaye de pas du tout m'en occuper parce que je trouve que c'est trop difficile. Et la jeune femme vient me voir, elle me dit elle a eu 5 filles, elle a eu plusieurs problèmes, la difficulté mais majeure. Et quand je suis avec elle, je lui dis écoute, c'est quoi, on va prier. Ah, on va prier. Où est-ce qu'ils sont, Martine et Olivier ? On va prier. Je dis, on va prier. Puis je dis, au nom de Jésus, tu vas te calmer, parce que je sais que des fois, c'est beaucoup les hormones des dames. Alors je dis, tu vas te calmer déjà. Puis on va demander à Dieu vraiment de quelque chose pour que tu aies un enfantement naturel. Vous savez quoi ? C'était il y a 15 jours. Ben, elle est enceinte. 5 fives. On lui a dit, c'est la dernière. On a terminé les trucs, ça marche plus, on arrête. T'inquiète pas, on va mettre Dieu dans l'affaire, on va prier. Je pourrais vous en donner des dizaines des comme ça. Si deux s'accordent, c'est la loi de l'accord, si t'es OK pour te mettre d'accord. Quelquefois, ça veut dire qu'avec un frangin, il faut demander pardon. Parce que comment on arrive à pas se mettre d'accord ? Parce qu'entre ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, il y a un truc qu'on devrait se dire pour dire. Peut-être qu'entre églises, il y a des choses. Parce que ça n'a pas toujours été simple entre églises. Des fois, entre deux églises, je vous dis, entre la Normandie, des fois, c'est pas simple. Ouais, mais si tu te mets d'accord, je vous dis franchement, les amis, hein, je ne raterai pas mon avenir pour des trucs auxquels je ne retournerai pas. Si vous êtes OK avec ça, je ne raterai pas ce que Dieu veut pour moi demain, pour un truc que je ne pourrais pas rejouer, qui ne m'appartient pas, et peut-être qu'aujourd'hui, je n'y retournerai pas. Ça, c'est un des grandes lois que j'ai appris. Je termine vraiment avec ça. Il y a quelques années en arrière, avec les ambassades, on a été obligés de faire des sessions de formation. Et pour former les leaders, on a insisté sur l'importance du pardon. Moi, je dis, le salut, grand Jésus, la réconciliation, on est bon, quoi. Et j'ai redécouvert l'importance du pardon. Vous savez ce qui se passe, en fait, pendant des années, j'ai imaginé que le pardon avait à voir avec le fait de régler notre passé. Et en fait, en réfléchissant avec Dieu, je me suis dit, la réalité, c'est que le pardon ne règle pas ton passé. Le pardon te garantit que tu rates pas ton avenir. Moi, pendant des années, je me disais que le pardon, ça veut dire que le truc, j'ai pas envie d'y retourner. Je suis gamin de divorcé, il faut que je pardonne à mon père. Voilà, je me suis pris des boulettes, machin, et le truc. Bon, je vous la fais rapide. J'ai pas envie, pour ça, vu comment j'ai été humilié, vu ma maman, puis tous les trucs. Non, bon, bah allez, je le pardonne, mais l'arrêter dans mon cœur, c'est toujours souffrant. Il faut que je me détache de ça. Et j'ai toujours imaginé que le pardon réglait hier, mais la réalité, c'est pas vrai. Dieu sait que mon avenir est tellement important que je peux pas rentrer dans cet avenir-là si mon cœur est chargé. Si dans mon âme, il y a une once d'amertume, tous mes choix sont marqués par l'amertume. Et comment je peux me mettre d'accord avec le Saint-Esprit, avec Dieu, si dans mon cœur, il y a de l'amertume? Comment je peux saisir l'avenir et l'espérance que Dieu veut me donner si dans mon cœur, il y a toujours un truc qui me gratte derrière? Vous avez déjà pris l'avion, vous arrivez, puis vous vous pesez. Alors, moi, si c'est au poids, j'ai un avantage sur les autres, mais ou je ne sais pas... Puis on vous montait, puis d'ailleurs, on vous pèse vos bagages. Allez, t'as combien de bagages dans tes poches et puis dans ton cœur et ton âme qui t'empêchent de prendre l'avion avec Dieu? T'as la meilleure destination, t'as les vacances de rêve, puis t'arrives au comptoir, puis ça sonne, puis on dit, hop, vous êtes en surcharge. Vous savez quoi, je m'en fous, mais je rate pas mes vacances pour trois t-shirts pourris, quoi. Enfin, pardon, des fois, on emmène des trucs, on traîne dans nos vies des trucs. Franchement, les amis, mais faites-vous du bien. Arrêtez de porter vos casseroles, arrêtez de traîner vos boulets, laissez-les derrière. Dites à Dieu que vous en voulez plus, ratez pas l'avenir. Moi, franchement, si on peut impacter 15, 20 églises, me dit Seigneur, mais éclatez-vous à implanter des églises dans le quartier, les amis. Si vous pouvez gagner 200, 300, 400, 500, 2000 personnes, mais arrêtez de regarder hier avec vos difficultés, rêvez avec Dieu pour dire « donne-nous des âmes, fais-les nous rencontrer, qu'on aille les chercher, les sauver, un témoignage, une grâce, ramène mes enfants ». Enfin franchement les amis, vous êtes ok ou pas? Amen. On peut se mettre d'accord, vous voulez bien prier? Amen Seigneur, merci parce que ce soir tu veux nous...